Chapitre 9. Du quartier latin au boulevard Poissonnière. 15 jours plus tard, Thérèse, après une brève visite chez elle en Suisse, se cherchait à Paris, sur la rive gauche, un logis qui ne fût point trop éloigné du boulevard Saint-Germain, où ses éditeurs avaient une devanture plus modeste que leur publicité et leur renom. Un de ces messieurs, aimable homme distrait, conseilla à sa jeune traductrice une pension du quartier latin, où son neveu de province, étudiant en médecine, se trouvait fort bien depuis 2 ans. Fort dépaysée et même plus intimidée qu'à Londres, Thérèse alla voir la maison qui ne payait pas de mine. Le concierge battait des matelas dans la cour, le vitrage de la porte avait un carreau cassé, la vétusté des murs tombait en poussière, ce qui n'avait rien de surprenant quand on savait que Calvin, jeune étudiant en Sorbonne, avait logé dans cette maison même 3 siècles auparavant. Le savait-on de source bien sûre? La maîtresse de pension aimait à le croire. Elle avait trouvé des documents à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Thérèse vit une chambre meublée à la française, c'est-à-dire avec plus de draperies et de capitonnages qu'on en a en Angleterre, une armoire à glace dont la française ne saurait se passer, car elle tient à savoir comment tombent les plis de sa jupe, ce qui était indifférent à l'anglaise de 1880. Le lit, assez propre, était retiré dans une alcôve peu profonde, tendue d'une perce qui fut tout de suite suspecte à Thérèse. Mais, de la fenêtre, on voyait un étroit jardin, une allée, une plate-bande, un mur tapissé de lierre, et tout en haut dans le ciel bleu, un svelte clocheton à colonnettes, s'égrenèrent les notes frêles et gaies d'un carillon. Ce carillon décida Thérèse, qui s'installa, déballa, puis rencontra les hôtes de la maison dans l'escalier et dans la salle à manger. À table, il n'y avait que 2 autres jeunes filles qui travaillaient pour des diplômes. Elles n'adressaient la parole à personne. Les carabins s'entretenaient bruyamment de vivisection et d'autopsie. On servit un poisson. Il prétendait que cet habitant de la Seine s'était engraissé de débris humains que le concierge de l'école de médecine avait jetés dans le fleuve pour s'épargner la peine de les enterrer. Au dessert, chacun se servait avec sa propre cuillère dans le bol de confiture. Dans l'escalier, on balayait à n'importe quelle heure de la journée. La porte de Thérèse n'avait pas de clé. Certains détails d'hygiène, si particulièrement corrects à Londres, étaient ici parfaitement dégoûtants. Il n'y avait pas de sonnette. À chaque minute, quelqu'un se penchait sur la rampe de l'escalier et hurlait « Rosalie ! François !» d'ailleurs sans aucun résultat. La maîtresse de maison était en flirt réglé avec un jeune médecin grec assez déplaisant. D'autres rastas, un détraqué suédois, un étudiant écossais qui fleurait le whisky, firent quelques avances à Thérèse. Elle recula farouchement. Au bout de 8 jours, écœurée, elle avait perdu tout appétit et même il lui semblait que sa voix prenait un timbre étouffé. Une sorte d'inertie tombait sur elle. Dans sa chambre, elle travaillait agréablement, encouragée par le joli carillon, mais ses déjeuners, ses dîners, ce soi-disant bouillon qui n'était qu'une éponge de pain trempé, ces œufs à l'apparition desquels tous les carabins se bouchaient le nez, cette cuisinière graillonneuse qui faisait irruption dans la salle à manger et rendait son tablier en le jetant à la tête de sa maîtresse, et l'odieuse familiarité du valet à tout faire qui se permettait de peser sur l'épaule de Thérèse en lui offrant un plat. Non, cela n'était pas tenable. Le soir où elle trouva des punaises derrière la tenture de l'alcôve, elle se dit « pas 2 jours de plus ». Bien qu'elle craignît de déplaire et de sembler difficile à l'éditeur qui lui avait conseillé cette maison, elle prit son courage à 2 mains, s'exhorta chemin faisant, s'attendrit un peu sur elle-même et sa solitude, essuya une petite buée de larmes qui lui troublait la vue, entra dans la librairie qui occupait tout le rez-de-chaussée de la maison. Comme elle se dirigeait vers le fond du couloir d'où l'escalier montait vers les bureaux d'édition, un employé se leva à son passage. « C'est pour la traduction des cathédrales, mademoiselle, n'est-ce pas ? Depuis hier, le chef s'est déchargé pour moi de cette publication. J'en suis le secrétaire. Vous serez bien aimable de me remettre vos pages de copie. » Thérèse ouvrit son portefeuille, en tira des feuilles d'un air indécis. « J'aurais voulu dire un mot à monsieur Delacroix. Je regrette, il est absent. Je ne pourrai pas remplacer. » Thérèse leva son regard vers un visage assez bizarre penché vers elle. Son fort n'était pas l'esprit d'observation, mais elle eut une rapide impression de sympathie pour ses yeux gris honnêtes qui ne la détaillaient pas, pour une bouche assez grande sous la moustache, relevée au coin de la lèvre par un demi-sourire qui avait l'air désabusé. Elle prit confiance en ce jeune homme qui ne semblait ni trop arrogant, ni trop parisien, et elle dit « Je me suis logée d'après le conseil de M. Delacroix, mais j'y suis trop mal, il faut que je déménage. Je vous assure qu'à Londres aussi, j'ai été mal logée une fois ou deux. » Elle revoyait une table de sapin couverte de taches d'encre et de café. Mais rien de si détestable que cette pension de la rue Valette. « Rue Valette ?» répéta le jeune secrétaire avec un petit sifflotement. « Oui, je connais la pension Mammut où notre illustre chef a son neveu. Très bien pour des étudiants, mais pour une jeune fille... » « Il y a deux autres jeunes filles, » fit Thérèse précipitamment, pour qu'on ne la crût pas toute seule dans un repère. « Cependant, vous désirez changer. Prenez cette chaise, mademoiselle, et laissez-moi vous dire sans autre préambule que je crois que nous sommes compatriotes. Il y a 15 jours, je vous ai écrit chez vous en Suisse. » En effet, le bureau m'a envoyé une lettre chargée, mais honoraire. Je n'ai pas remarqué la signature, » dit-elle avec quelque hésitation. Ma signature, deux humbles initiales sous le timbre de la firme. Je m'appelle Marc Maujon. Que dites-vous de ça? Mais j'en dis que c'est un nom de chez nous, en effet, de tout près de chez moi. Je pourrais même indiquer la commune d'origine des Maujons dans une belle vallée large et verte. Je la vois en fermant les yeux. Je vais fermer les miens également. Si un client entre, il nous croira en transe hypnotique. Thérèse éclata de rire, elle se sentait allégée de son souci, tout en confiance et très gaie. « Pouvez-vous m'indiquer une autre pension ? » demanda-t-elle, presque enfantinement, comme le tout petit qui met sa main dans la main d'un guide. « D'ailleurs, pour être exact et topographique, reprit le secrétaire des cathédrales, pardon si je dérive un peu, la vallée verte où se trouve notre commune d'origine, cette vallée m'est à peu près inconnue. » Mon père avait une usine près de Fribourg où j'ai fait mes études. Quand je ferme les yeux, je revois des ponts suspendus et de vieilles fontaines. J'ai entendu les orgues de Fribourg, fit Thérèse assez mollement. Quel dommage que vous ne soyez pas jurassien. On ne pense pas à tout quand on choisit ses parents, prononça-t-il d'un ton mi-taquin, mi-rêveur, qui, par une assonance imprévue, fit battre le cœur de Thérèse en lui évoquant la voix et la manière de Pierre Coum. Elle baissa les yeux, elle se tut. « J'ai une cousine, » reprit le secrétaire. Elle étudie la peinture à l'atelier Julien. Elle vit avec d'autres jeunes romandes, sous la garde d'un dragon redoutable, une vieille dame imbue de vertus et de préjugés, qui a un bel appartement boulevard Poissonnière. Il s'y trouverait peut-être une chambre vacante pour vous, mademoiselle le maire. Voulez-vous que j'aille m'informer ce soir avant mon dîner ? « Faut-il vous porter la réponse dans la soirée rue Valette ou préférez-vous venir la prendre ici demain matin ?» Ce soir, demain, comme tout cela marchait vite. Pour le logis rose aussi, les choses avaient marché vite. Mais la situation était bien différente. « Si c'est possible, venez dans la soirée. Je vous attendrai en bas, au salon. Ah, si je pouvais déménager déjà demain !» Madame Mammut sera furieuse. « Je paierai ce qu'il faudra !» s'écria Thérèse tout d'une haleine. Madame Dugard n'avait à offrir qu'une mansarde, grande et claire d'ailleurs, au 5e, étage des Bonnes. Mademoiselle le maire s'en contenterait-elle pour commencer ? Une peintresse célèbre, dont on ne prononçait le nom qu'avec émoi, un beau nom juif, un nom de ville, avait logé pendant 2 ans dans cette mansarde où elle invitait des cohortes de jeunes rapins, lesquels, bons acrobates, sortaient à travers la large lucarne et s'alignaient sur les tuiles pour jouir de la fraîcheur nocturne, un peu gâtés par les puanteurs que le vent chassait des tanneries de Pantin. D'un bond, la bourse assez allégée par le loyer de quinzaine qu'exigea Madame Mammut, irritée et digne, Thérèse s'évada du quartier vers les boulevards. Elle croyait à présent tout savoir des gîtes divers où une femme seule abrite son souci de respectabilité. Elle n'avait pas encore rencontré le dragon pour jeunes artistes romandes, la dame française qui disait en soupirant « Je ne comprends pas vos mères de vous envoyer à Paris sans une bonne pour vous escorter à l'atelier. » Les rencontres dans la rue, les bousculades des tramways et, le soir, quand on rentre du théâtre ou d'une partie de campagne, tout ce qui peut se passer, même à la porte cochère. L'ordre était de se séparer sous l'œil du concierge, devant la loge, quand un jeune homme ramenait la jeune fille. L'œil du concierge sauvait les apparences. « Paris !» disait l'aînée des jeunes peintresses, une ravissante fille qui avait le flou d'un pastel. « Paris est la ville du monde où il est le plus facile d'être sage si on le veut. Le Parisien n'insiste jamais, un regard lui suffit. » « C'est égal, persistait le dragon, je n'ai une minute de tranquillité que le soir à minuit quand vous êtes toutes rentrées et que je mets le verrou à la porte du vestibule. » « Ne faites pas attention, soufflait la plus petite, un atome de féminité artiste, mauviette. « Vous verrez cela, mademoiselle le maire, qu'on est très bien ici. Sauf le bœuf du pot-au-feu, tellement cuit qu'on le mange à la cuillée, et les cornichons sont réservés à bébé. Tout est parfait de ce que Jeannette apporte sur la table. Et le vendredi soir, nous pouvons inviter nos amis. Vous n'avez pas encore vu le grand salon ? J'y ai vu ce matin un homme qui dansait, je me suis sauvée. » Mauviette partit d'un éclat de rire. Mais c'était l'Auvergnat qui cirait le parquet avec des brosses sous ses semelles. « Vous avez encore pas mal de choses à apprendre. »« Je connais mieux l'Angleterre, » fit Thérèse imprudemment.